C'est un plaisir que de vous apporter ce message ce matin. Imaginez tout un groupe de gaillards qui discutent, assis au milieu des collines. Ils sont près des sources du Jourdain, sous le mont Hermon. Et puis, c'est des gaillards, ils sont tous très différents les uns des autres. Il y a pas mal de pêcheurs qui sont là, donc des pêcheurs de poissons à l'époque. Il y a les autres, on ne sait pas très bien ce qu'ils faisaient. Bon, il y en a en tout cas un qui s'occupait de récolter les impôts, qui était à la solde des Romains. Et puis, ils sont là, ensemble, et puis ils discutent tous très différents. Il y a 3 ans, ils ne se connaissaient pas encore tous. Hein. Certains sont frères entre eux, mais tous ne se connaissaient pas entre eux. Puis ils sont là, ils parlent d'un homme qu'ils suivent depuis plusieurs mois maintenant, qui est Jésus. Et puis, ils causent entre eux, parce qu'ils l'ont vu faire des miracles absolument extraordinaires, ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu calmer la tempête, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu enseigner d'une manière que personne d'autre n'a jamais entendu personne enseigner comme lui, il est capable de tenir tête aux religieux, enfin voilà, c'est vraiment un gaillard extraordinaire qui est là, et puis qui suivent. Il a chassé des démons, et puis ils sont là, puis ils discutent parce qu'ils n'ont pas très bien compris encore quel était son plan. Il leur en a parlé, il leur a expliqué les paraboles, ces histoires que Jésus partageait avec le peuple, qu'il ne comprenait pas. Alors il les expliquait à ses disciples. Alors ils ont une petite idée de qui est ce Jésus, mais ils ne comprennent toujours pas tout, hein. Hier encore, quand ils étaient dans le bateau pour traverser la mer de Galilée, voilà que Jésus leur dit de se méfier du levain des pharisiens. Puis, ils ont cru que c'était parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain avec eux. Ils n'avaient pas compris quel était le sens de ce que Jésus voulait leur dire. Et puis, pourtant, avec ce Jésus leur a même donné à eux le pouvoir de faire des guérisons, de chasser des démons, de faire des miracles. Et puis encore, ce matin, ils étaient à Bethsaïda, et puis il y a une guérison. Jésus a pris un aveugle, il l'a même pris hors de la ville pour le guérir. Puis là, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il lui a fallu 2 temps pour réussir à guérir cet aveugle. Est-ce qu'il perdrait de son pouvoir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et voilà que pendant qu'ils causent et qu'ils mangent, eh bien, Jésus tout d'un coup leur demande, dites-moi, qu'est-ce que l'on dit de moi? Qu'est-ce que l'on dit de moi? Alors voilà, il y a un certain nombre de réponses qui viennent. Eh bien, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un prophète. Il y en a peut-être aussi qui disent que tu es possédé par un démon ou que tu n'as pas toute ta tête. Voilà le tableau. Je vous propose que nous lisions maintenant ce texte et la suite de ce texte dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 8, depuis le verset 27. Là, on est dans le début, dans le cadre de l'évangile de Marc, où Jésus révèle qui il est. Et c'est un moment extrêmement fort. Marc 8, 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. « Et d'après vous, qui suis-je » Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Tu es le Messie ou le Christ ou le loin de l'Éternel. Dans Matthieu, on voit qu'il rajoute encore, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Voilà. J'ai un peu essayé d'imager un peu ce moment où Jésus demande à ses disciples qui ils sont. Je dois dire que j'ai fait ça avant de voir la série The Chosen. Hein. C'est pas inspiré par ça, je précise. Ils partent en direction de Césarée de Philippe, et c'est là que Jésus va révéler la première fois quel va être son parcours. Il va le révéler encore à deux autres reprises, il va rappeler ça à ses disciples. Et Césarée de Philippe, qui est au nord de Bethsaïda, au nord du lac de Galilée, à 35 km à peu près, c'est intéressant comme région, parce que c'est une région qui a abrité des dieux, des temples de dieux païens. Entre autres, le dieu Pan, dieu des bergers, dieu de la fertilité des animaux, qui est représenté avec des cornes de bouc et des jambes de bouc, avait un temple dans cette région. Et puis également, Philippe a fait, l'empereur romain a fait construire également un palais dans cette région en l'honneur de César Auguste. C'est donc vraiment une région qui était habitée par des dieux païens, par des divinités païennes. Ce n'est pas à Jérusalem qu'il va annoncer cela, c'est dans cette région habitée de dieux païens que Jésus va révéler qui il est. Et on voit que Jésus pose donc cette question à ses disciples. Qui suis-je, au dire des personnes? Alors la première réponse est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était mort déjà à cette époque, hein, il avait été mis à mort par Hérode, c'était une figure qui était bien connue du peuple. Il avait baptisé des dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes dans le Jourdain. On venait de plusieurs endroits vers lui pour être baptisé. Et donc, c'était quelqu'un qui était connu. En plus, c'était un grand original, hein, vêtu de peau de chameau, qui mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Vous imaginez un peu le tableau. Et puis, qui osait reprendre également les chefs religieux. Il les interpellait, il leur disait de porter du fruit qui soit conforme à leurs œuvres. Voilà, c'était pas n'importe qui, c'était pas un Miquelet qui était là dans son coin. Il haranguait le peuple, il les faisait venir, et puis voilà qu'il était habillé un peu de manière très très particulière. Alors certains, peut-être, pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. En plus, ils étaient cousins, Jésus et Jean. Ils avaient quelques mois de différence. Peut-être qu'ils se ressemblaient aussi un peu physiquement. On ne sait pas. Et ils étaient populaires, les deux. Jésus était aussi extrêmement populaire à ce moment-là. Ils prêchaient à des foules, tant Jean-Baptiste que Jésus. Ils avaient une bande de gars qui les suivaient, tant l'un que l'autre. Ils osaient interpeller les autorités religieuses. Donc, il y avait passablement de points communs entre Jean-Baptiste et Jésus. Ce qui fait que ce n'était pas forcément, c'est pas une réponse qui était complètement bête, quoi. Mais à part ça, c'est vrai que Jean n'a fait aucun miracle et puis qu'il a toujours annoncé Jésus. Il a toujours fait se tourner les yeux du peuple vers celui qui allait venir, vers le Messie, vers Jésus. La deuxième réponse qui vient, c'est Élie. Alors c'est aussi intéressant, Élie. C'est aussi un prophète dynamique, c'est aussi un grand original qui était aussi habillé d'une manière particulière, qui également avait harangué des rois. Il a vécu une période qui n'était vraiment pas facile, avec des rois qui étaient opposés à Dieu, et il les a repris, il n'a pas eu peur de les défier. Et puis, Élie n'était pas mort, hein, il a été enlevé par Dieu. Donc on pouvait se dire, ben voilà, Élie est revenu. D'autant plus qu'un prophète, Malachie, avait annoncé que Dieu allait envoyer Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Donc il y avait toute une partie du peuple d'Israël qui attendait ce retour d'Élie. Ils étaient très proches, Jean-Baptiste et Élie, même si c'était à des époques, s'ils vivaient à 8 siècles d'écart, et ils avaient tous les deux un message qui était extrêmement radical, c'était des réponses qui étaient plausibles. Et puis, une troisième proposition qui est faite, que l'on a, c'est un prophète parmi les prophètes, un prophète quelconque, un prophète qui parlait de la part de Dieu. Et puis, comme j'ai dit, certainement qu'ils ont rajouté, si on relit les évangiles, en particulier l'évangile de Marc, qui n'est pas trop long, c'est une bonne mise en bouche en début d'année, qui est extrêmement intéressant, on voit que déjà avant cet épisode, eh bien, on le croyait possédé de démons, et que sa famille même disait, mais est-ce qu'il est vraiment tout à lui ? Voilà les réponses qui sont apportées. Et puis, ça, en fait, c'est une mise en bouche, cette question. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Parce qu'après, Jésus arrive à la question qu'il pose à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Vous m'avez côtoyé, vous me côtoyez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous avez pu participer même au miracle. Alors, vous avez entendu mes enseignements. Vous, qui dites-vous que je suis ? Alors là, on voit que Pierre répond direct. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un moment de flottement quand même. Ils se sont regardés. Qu'est-ce que tu penses ? Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Jean ? Jean-Baptiste, ouais, peut-être aussi quand même, ça c'est pas mal. Et puis il y a Pierre, et c'est Pierre qui répond et qui dit « Tu es le Christ, tu es le Christ, celui qui est oint par Dieu, celui qui est reconnu par Dieu pour une mission particulière. » À l'époque de l'Ancien Testament, on oignait, eh bien, les rois étaient oints, les prophètes, et puis également les prêtres qui étaient les personnes qui étaient ointes. Et puis déjà, alors c'était ces personnes, on savait, mais également, eh bien, on savait qu'il y avait un Messie qui allait être envoyé. On en a parlé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, entre autres, il est dit que, eh bien, Dieu va envoyer un descendant de David pour délivrer son peuple et apporter la paix. Donc on attendait ce Messie aussi. Certains attendaient Élie qui devait revenir, mais le peuple attendait aussi ce Messie, ce fameux Messie dont on parlait depuis plusieurs siècles, qui n'était pas encore revenu. Et Pierre a cette révélation par le Saint-Esprit que ce Jésus avec qui il mange, avec qui il se déplace, avec qui il partage la vie, eh bien, c'est incroyable. C'est ce fameux Messie qu'on attend depuis des siècles. On pourrait se dire que Jésus allait leur dire « Allez annoncer cela ». Eh bien non, il leur interdit d'en parler. Ils ne sont pas encore mûrs, hein, les disciples. On va le voir très rapidement après. Ils n'ont pas encore vraiment compris qui est ce Messie. Et alors commence un nouvel enseignement sur Jésus leur révèle ce qui l'attend. Ce n'est pas folichon, hein. C'est assez dramatique. Ce Jésus qui est le Messie, le Christ, ne va pas vers une vie facile, faite d'honneur. On ne va pas l'acclamer à Jérusalem, on ne va pas lui faire la fête. « Waouh, le Messie est là, super, venez, réjouissons-nous. » Eh bien, il va devoir souffrir beaucoup. Il va être rejeté par les chefs des religieux. Il sera mis à mort et il ressuscitera le troisième jour. Quel programme, hein ? Quel programme ? On comprend que les disciples ne devaient plus comprendre grand-chose. Certains étaient proches de partis nationalistes qui voulaient débarrasser Israël des Romains. On espérait que c'était ce qu'il allait faire, qu'il allait délivrer des Romains. Et voilà qu'il va mourir, qu'il va être crucifié. Alors il y a quand même une note d'espérance, c'est qu'il va ressusciter le troisième jour. Qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ça ? Alors, Pierre, il est tellement scandalisé par ce qu'il entend qu'il prend Jésus à part. Puis il dit, mais non, ça ne peut pas t'arriver. Ce n'est pas possible, pas à toi. Et Jésus va le reprendre. Et il ne le reprend pas tout seul dans son coin. C'est avec les disciples, il le reprend et il lui dit, arrière de moi, Satan. Les pensées de Pierre, là, n'étaient plus des pensées qui étaient conduites par l'Esprit Saint, mais qui étaient conduites par la chair. Il voulait protéger Jésus. Il voulait que ça se passe bien pour lui. C'était pas possible que ça se finisse de manière aussi tragique, cette histoire. Et Jésus doit le reprendre. Et parce qu'il reconnaît au travers de la voix de Pierre, qui était inspirée il y a encore peu de temps avant, il reconnaît la voix du diable, en fait, qui veut le détourner du chemin qui est le sien. Parce que Satan savait très bien où allait Jésus et pourquoi il allait dans cette direction, beaucoup mieux que les disciples. Et alors il le fait taire. Et le fait que Jésus allait mourir était considéré certainement par les disciples comme étant un accident, comme étant peut-être un mauvais calcul de la part de Dieu. Alors que non, c'est là la raison de venir de Jésus sur la terre. C'est sa mort pour enlever nos péchés. Ce n'est pas simplement sa vie terrestre, son ministère pendant 3 ans, mais c'est surtout le fait qu'il a jusqu'au bout, qu'il donne sa vie et qu'il ressuscite. Quand il dit « arrière de moi, Satan » à Pierre, il n'est pas en train de dire à Pierre « va-t'en, va-t'en ». Il lui dit « viens derrière moi ». C'est le même verbe, on va voir après, que Jésus utilise quand il s'adresse après à la foule. Puisque là, ça se passait entre les disciples et Jésus, et là, Jésus va s'adresser à la foule. Si quelqu'un veut venir après moi, et là c'est le même verbe que celui qu'il utilise pour dire arrière de moi, ça veut dire derrière moi, venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le programme de Jésus. Actuellement, il y a les candidats aux élections françaises qui se préparent. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient un programme de ce type, hein. Très honnêtement. Si quelqu'un veut venir après moi ou veut être mon disciple, c'est la même chose. Hein, être disciple, c'est suivre Jésus. Eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais je peux vous garantir que les auditeurs de Jésus, d'une part, et puis ensuite également les lecteurs de l'évangile de Marc, cet évangile s'adressait, on pense, avant tout aux Romains, eh bien, je peux vous promettre qu'ils savaient ce que c'était que la croix. Nous, c'est devenu un peu théorique, hein, un peu lointain. Ils savaient que c'était un instrument de torture, que le condamné eh bien, allait devoir porter lui-même jusqu'au lieu du supplice. Jésus a passé par là. Il a dû porter sa croix. Et puis, peut-être même qu'une bonne partie de ceux qui lisaient l'évangile de Marc avaient parmi leurs connaissances des personnes, des amis, des frères et sœurs qui avaient passé par là. Et qu'ils savaient également, ils se disaient, mais ça peut aussi m'arriver à moi. Ça peut aussi m'arriver à moi si je suis Jésus. Ou bien terminer dans les arènes d'un cirque quelconque au milieu des animaux sauvages. C'était reconnaître Jésus comme Messie et le suivre. Pour eux, ce n'était pas une question théorique. Comme ça, on peut discuter, finalement, c'est vraiment le Messie. Oui, mais quand même, il y a des signes que... Eh bien, c'était vraiment leur vie qui était en jeu. C'était du concret, quelque chose qui allait transformer radicalement la vie de ces personnes et potentiellement les mener à la mort. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce message est encore d'actualité ? Ben, vous allez me dire, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai et c'est évident que ce message a toujours de l'actualité. Il est toujours d'actualité, même si nous n'avons plus de croix, même si dans nos pays occidentaux, on n'est pas sous la menace de mort en choisissant de suivre Jésus. Et certainement que la paix de laquelle les églises ont vécu pendant ces décennies dans nos pays, je dis bien, parce qu'il y a d'autres pays où ce n'est vraiment pas du tout le cas, eh bien, a certainement pu émousser cette image de la croix. C'est quelque chose, le fait de porter sa croix, de suivre Jésus, est devenu, si j'ose dire, un peu plus léger que ce que ça l'était pour les auditeurs de l'époque. Comment est-ce que nous réagissons à ces expressions, hein, nous-mêmes, vraiment de manière sincère, soi-même, avec Dieu, renoncer à soi-même? Comment est-ce que je réagis à ça? Porter sa croix. Bon, c'est devenu une expression populaire. Hein. On a tous notre croix à porter. Hein. Oui, mais ce n'est pas ça, comme vous le comprenez. Suivre quelqu'un d'autre, renoncer à soi, se mettre derrière un autre. À une époque, maintenant, il faut quand même le reconnaître, c'est plutôt développer une certaine estime de soi. Il faut développer ses potentialités. Se réaliser dans qui on est, croire en ses capacités. Tu peux le faire. You can do it. Réalise tes rêves. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves? On est dans un discours ambiant de ce type. Et alors, quand on vient nous dire « renonce à toi-même », ce n'est pas forcément évident. On chante « Le Dieu de victoire habite en moi », ce qui est très bien, et c'est juste, mais dans quel sens est-ce qu'il habite en moi? Alors qu'on voit que Jésus nous invite à le suivre à la croix, alors que dans le sermon sur la montagne, Jésus disait « Bienheureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien apporter à Dieu pour leur salut. Bienheureux ceux qui pleurent. Pourquoi est-ce que ces personnes pleurent? Parce qu'ils reconnaissent leur état de pécheur. Ils reconnaissent l'horreur que le péché représente pour Dieu. Parfois, on se croit déjà dans la victoire. Alors, on connaît, on a le fil de l'histoire, mais n'oublions pas que nous sommes pour le moment à la suite de Jésus. Nous marchons derrière lui. Il ne nous a pas tout donné comme ça pour qu'on fonce devant lui. Jésus marche devant et nous marchons à sa suite. Paul écrivait aux Corinthiens, il y a fort longtemps donc, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. » Donc là, nous étions sur ce verset de suivre Jésus, de renoncer à soi-même, de prendre sa croix. Puis ensuite, eh bien, si on reprend les versets suivants, « où Jésus dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ?» Là, on voit que nous avons tout à gagner à suivre le Messie. Nous avons tout à gagner. C'est vrai que notre vie humaine, elle n'est pas si longue que ça. Plus on avance en âge, et plus on se rend compte que ça va vite. Eh bien, si nous renonçons à cette vie, ce qui ne veut pas dire qu'on est tous appelés à mourir comme ça, mais dramatique, entendons-nous bien, eh bien, nous allons gagner la vie éternelle. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Vous m'avez suivi ? Ouais. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. C'est une belle phrase. C'est la phrase d'un jeune homme, un missionnaire, Jim Elliot, qui était missionnaire en Équateur dans les années 50. Et il avait écrit cette phrase quelques années avant. Il a cherché à atteindre, avec quatre autres amis missionnaires, atteindre une peuplade extrêmement reculée et connue comme extrêmement violente. Ils ont passé quelques jours à entrer en discussion, différents moyens pour pouvoir rencontrer cette tribu. Il y a eu un malentendu quelque part, et voilà que ces quatre personnes ont été massacrées en 1956. Il avait 29 ans. Et c'est une histoire qui avait dramatique, qui est dramatique. Après ça, sa femme, il était marié, ils avaient un enfant. Sa femme est partie vivre dans cette tribu. Donc voilà. Pour lui, c'était quelque chose, c'était extrêmement radical. C'était clair et avant de partir que ça ne sert à rien de garder quelque chose que de toute façon on va perdre. Vous êtes d'accord ? On ne va pas y mettre trop d'énergie, quoi. Au détriment de la vie éternelle, je dis bien. Mais on voit après aussi également que, on a beau être célèbre, on a beau être connu, eh bien, si nous ne sommes pas sauvés, eh bien, cela ne nous sert à rien. On voit bien, du reste, il y a des personnages extrêmement qui étaient célèbres à une époque, qui sont maintenant destitués, on enlève leur statut, on enlève leur nom des dictionnaires, on les remet à rien du tout. Et après, on voit au verset 38 que Jésus va revenir. Que Jésus va revenir dans la gloire cette fois-ci. Qu'il est venu dans l'humilité et dans la faiblesse, et qu'il va revenir dans la gloire. Et que là, eh bien, il y aura un tri qui sera fait entre ceux qui l'ont suivi, qui ont été d'accord de renoncer à eux-mêmes pour le suivre. Alors, en ce début d'année 2022, dans une période qui est très chahutée, énormément chahutée même, l'incertitude commence à nous fatiguer, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est peut-être même qu'elle nous exaspère, cette situation. On est peut-être comme les disciples, dans la région de Césarée de Philippe, qui discutent, et puis on se dit, c'est pas facile ces temps de Covid, c'est vraiment pas drôle, est-ce que Dieu pourrait pas intervenir quand même, est-ce qu'on devrait faire davantage de réunions de prière, est-ce que si, est-ce que ça, jusqu'où est-ce qu'on va se laisser voler ce qui fait notre identité de chrétien, est-ce qu'il ne faudrait pas se rebeller à un moment donné? on est peut-être dans des discussions de ce type, eh bien, je crois que Jésus vient nous poser cette question. La question, et toi, qui dis-tu que je suis? Et si tu me reconnais comme le Messie, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à prendre ta place derrière moi? À renoncer à ta vie pour gagner la vie éternelle? C'est certainement le bon moment de se repositionner par rapport à Dieu, d'une manière sincère, soi-même avec Dieu. Hein. On voit, il y a des prophéties qui disent, les prophéties que l'on entend nous disent bien que l'on ne va pas vers des temps qui vont être plus faciles. Peut-être qu'en janvier 2023, on se dira, en janvier 2022, c'est cool quand même. Hein. On ne sait pas. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais voilà, ce que l'on entend, en tout cas, n'est pas quelque chose de très réjouissant par rapport aux affaires de ce monde. Mais que nous puissions vraiment, en tant que personne et en tant qu'Église, si nous voulons être celles et lumières, ou si nous voulons faire la différence, comme on dit, eh bien que nous puissions vraiment nous repositionner vis-à-vis de Dieu. Suivre Jésus, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des quantités d'efforts, qu'il faut chercher des choses incroyables, impossibles. Ce n'est pas ça. Suivre Jésus, c'est se mettre derrière Jésus. Et puis, c'est l'écouter, c'est le mettre à la première place. Moi, je me suis souvent posé la question de ce que ça pouvait vouloir dire, de est-ce que j'en fais assez, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que je devrais en faire plus, etc. Et puis, je crois que Jésus, peut-être comme je ne suis pas un cas particulier, je pense qu'il y en a d'autres qui se posent ce genre de questions aussi. Et puis, Jésus nous dit, mais ne te pose pas ces 36 000 questions. Suis-moi. Suis-moi. Comment le suivre, alors, me direz-vous? Comment le suivre? Eh bien, se dire, ben voilà, ça peut être de bêtement, si j'ose dire, comme ça, commencer la journée avec Dieu. On n'a peut-être pas beaucoup de temps le matin. On a pas mal de choses à faire. Peut-être que c'est se dire, ben voilà, moi je me lève toujours au dernier moment pour aller au travail ou aux études ou faire ci ou faire ça. C'est toujours la course, j'ai juste le temps de boire une tasse de café et encore. Peut-être qu'on peut simplement se dire, ben voilà, peut-être que je mets mon réveil un quart d'heure plus tôt et puis je passe un moment avec Dieu. Et je me laisse, je lis sa parole. Parce que c'est dans sa parole que je vais trouver comment le suivre. Et puis je lis sa parole et puis j'accepte ce que Dieu me dit au travers d'elle, par le Saint-Esprit. Et je me mets en relation avec lui. Je passe un moment d'échange avec lui. Ce n'est pas la liste de commissions seulement, mais c'est Seigneur. Contemplez le Seigneur. Regardez à lui. Waouh, c'est magnifique. C'est, et puis de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui pour ma vie, et puis se laisser interpeller, et puis peut-être il va mettre sur notre cœur des choses. Après, il n'y a plus qu'à les faire, si j'ose dire, à se mettre en mouvement. C'est se mettre en mouvement, c'est pas se poser des questions pendant 6 mois, faire une retraite forcément de 6 mois. Alors peut-être parfois c'est nécessaire, mais pour se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? On peut faire une retraite de 6 mois, mais on peut aussi en parallèle commencer chaque matin en se disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Avec Jésus, on n'est pas invité à un repas qui est sous forme de buffet. C'est un menu complet. Un buffet, c'est génial. Enfin, moi, j'aime bien les buffets parce que voilà, il y a des choses qu'on aime bien. On va les chercher. Ah, ces crevettes, elles sont excellentes. Je reprends encore. Waouh, il y a des huîtres. Bon, là, du carpaccio de tomates, ça me tente un peu moins. Mais d'autres personnes vont se ruer là-dessus. On peut se servir de ce que l'on veut, ce qui est extrêmement agréable. Dans un menu, eh bien, on nous sert tout. Vous aurez peut-être d'abord une première entrée, et puis après, vous aurez peut-être un potage. Et puis j'en connais qui n'aiment pas les potages. mais il est dans le menu. Et puis après, il y aura du poisson, et puis de la viande, et puis du fromage, et puis du dessert. Et là, on a tout. Et avec Dieu, c'est comme ça. Dieu nous propose un menu. Et ce n'est pas à option. Ce n'est pas à option. Ce n'est pas je peux prendre, je me sers de ça, de ci. Je lis ces versets qui me plaisent, qui me font du bien. C'est bien. Mais il n'y a pas que l'évangile de Jean, il n'y a pas que les psaumes, il n'y a pas que l'évangile de Marc. Il y a 66 livres. Et Dieu nous propose un menu à 66 livres. Ce n'est pas le prix. Hein. Il est gratuit. Mais voilà. Donc, que nous puissions vraiment aussi réfléchir à finalement qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie. On va dire oui, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Évidemment. Mais comment est-ce que ça se manifeste que c'est Dieu si je suis moi et avec Dieu? Comment est-ce que ça se manifeste que c'est Dieu qui est réellement le plus important pour moi? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais peut-être laisser de côté pour pouvoir être davantage avec Dieu? Est-ce que je devrais renoncer à certaines choses? Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout, qu'il faut renoncer à ses hobbies, etc. Hein? Non, mais Dieu va nous montrer. Et notre rôle, eh bien, c'est de suivre ce Jésus. Afin que nous puissions être prêts, que nous puissions devenir mûrs, et pas blés, mais mûrs en Jésus-Christ. Alors vraiment que nous puissions prendre un moment pendant ces prochains jours, pendant cette journée peut-être déjà, ou ces prochains jours, de se dire, mais Jésus, Seigneur Jésus, qui es-tu vraiment pour moi? Qui es-tu vraiment pour moi? Est-ce que je te suis vraiment? Ou bien est-ce que je te considère comme un prophète qui a des super belles paroles de sagesse dans lesquelles je vais me servir? Ou bien est-ce que je vais suivre le Messie jusqu'au bout? Alors la première étape, évidemment, c'est de reconnaître Jésus comme son sauveur. Évidemment, ça commence par là. Le reste, c'est que la suite. Le reste, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Ce n'est pas des devoirs à faire, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, qui veut que ses enfants, puisque nous sommes ses enfants, eh bien, puissent vivre déjà dans l'éternité, en quelque sorte. Puissent vivre une vie qui est pleine de lui. Alors, c'est vrai que ce matin, mais nous pouvons faire ce choix. Laurent en a parlé au début, je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit au début de la louange, mais ça allait tout à fait dans ce sens-là aussi, eh bien, vraiment de choisir Dieu, de choisir qui il est, et puis d'avancer avec lui. Où est-ce que j'en suis avec cette notion de marcher, de me mettre derrière Jésus, de le suivre, là où il va? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? À quoi est-ce que je passe mon temps? Qu'est-ce qui m'occupe pendant la journée? Qu'est-ce qui me motive? Et en suivant Jésus, eh bien, nous avons une chance incroyable, c'est que, comme il l'a été dit, dans une prière en tout cas aussi, c'est qu'il est toujours avec nous. Si je suis derrière Jésus, ben je suis derrière Jésus. Je ne suis pas à 20 km de lui. Je suis derrière Jésus et Jésus est avec moi. Et il prend soin de nous. Et il nous encourage. Il nous relève. Il nous fait aller de l'avant avec lui. Il nous dit, ne crains rien aussi. Je suis avec toi. Et comme il a été dit déjà aussi, eh bien, je connais ta situation. Il y a des personnes, certainement, qui ont des situations qui sont difficiles, que ce soit au niveau de la santé, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau études, au niveau autre encore. Eh bien, Jésus, il connaît ça. Ce n'est pas un Dieu lointain. Et puis, il est avec toi dans cette situation. Tu es derrière lui et lui est avec toi. Et il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Alors rappelons-nous de cette phrase de Jim Elliot, Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tes projets pour nous qui, au premier abord, peuvent paraître pas très folichons et qui pourtant sont tes projets d'amour pour nous. Tes projets d'amour pour nous, toi qui as tout accompli pour nous. Tu as renoncé à toi-même. Toi qui es Dieu, tu as renoncé aux gloires, à la gloire qui était la tienne pour venir sur cette terre. Tu as renoncé à un statut de prêtre ou à tout autre haut statut sur cette terre pour prendre le statut d'un pauvre. Tu es allé jusqu'à la mort pour nous. Et ce n'est pas une mort théorique. Ce n'est pas parce que tu allais ressusciter 3 jours après que c'était plus facile. Là, tu as été séparé de ton Père pendant des heures, portant nos péchés, portant les péchés de l'humanité. Et ce matin, eh bien, tu nous dis, le chemin est ouvert, le chemin est tracé, venez, suivez-moi, reconnaissez que je suis le Messie et mettez-vous à ma suite. Seigneur, que nous puissions vraiment entrer dans ta suite ce matin, dans cette année 2022, que nous puissions te suivre, que nous puissions être derrière toi, que nos pensées de plus en plus soient occupées par toi, que notre priorité de plus en plus soit toi, Seigneur Dieu. On ne veut pas s'égarer dans des sentiers autres, on ne veut pas écouter d'autres voix, qui sont, pourtant il y en a énormément, mais Seigneur, donne-nous de connaître, de reconnaître ta voix dans ta parole, par ton esprit, et que nous puissions la suivre et aller de l'avant. Merci, mon Dieu, pour ce plan qui est là pour nous, pour ce projet, parce que c'est toi qui as tout accompli et que nous avons simplement à te suivre, Seigneur. Merci parce que tu reviens bientôt aussi, parce que tu ne nous abandonnes pas sur cette terre, dans cette galère telle qu'elle est maintenant, mais tu reviens. Tu reviens bientôt. Eh bien, Seigneur, que cette attente de ton retour aussi soit un sujet de joie pour nous, un sujet de nous mettre en route avec toi, de te suivre, de te connaître toujours mieux pour que quand nous te rencontrerons, eh bien, tu ne sois pas un inconnu pour nous, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes, que tu nous dis encore « ne crains rien » ce matin, et tu le dis à beaucoup d'entre nous encore ce matin, « ne crains rien, car je suis avec toi. Je prends soin de toi, de ta famille, et tu peux t'appuyer sur moi. » Merci, mon Dieu. Que ton nom eh bien, puisse être élevé encore aujourd'hui parmi nous et dans ton peuple sur la terre tout entière. Amen. Amen.